Vous avez parlé de lutter contre le délit d'initié en explicitant en fait les codes, les valeurs, et puis que les parents, enfin une certaine catégorie de parents étaient attachés à la confidentialité, notamment par peur du regard des autres. Quelles mesures la DGESCO envisage pour changer le regard des autres parents, justement, pour une bienveillance vis-à-vis d'une certaine frange de la communauté de parents. Parce que les préserver du regard des autres peut passer par, justement, mettre en place une certaine pédagogie vis-à-vis des autres parents qui ont regarder leur père.
Vous imaginez bien que la DGESCO n'a pas le pouvoir d'intervenir sur les autres parents d'élèves, mais quand on met en place dans le cadre de la refondation de l'éducation prioritaire ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire tout un esprit et une posture professionnelle qu'on inscrit dans le référentiel, qu'on diffuse, qu'on forme, c'est une façon de répondre à votre question, c'est-à-dire qu'on essaye effectivement de faire prendre conscience à l'ensemble de nos collègues de cette problématique-là, parce que c'est vrai que les parents, il y a le regard de l'école et des professionnels, mais il y a le regard des autres parents, tout à fait, hein, c'est tout à fait ça qui peut parfois et plus que le regard des professionnels, le regard des autres parents qui peut les arrêter. Alors c'est vrai qu'on travaille à ça, on travaille aussi beaucoup avec le mouvement ATD Carmonde dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est tout à fait sensibilisé à ce type de questions. Mais c'est par ce type d'initiative de former, de donner des directives, des conseils, des recommandations, qu'on travaille ces questions-là, qu'on essaye de faire que les équipes s'emparent de ces questions.
Si tu peux juste prolonger ce que tu dis, c'est le référentiel, c'est un cadre qui, pour le coup, systémique, qui porte un certain nombre de valeurs, qui est bien pensé. Et après, ça renvoie à notre responsabilité collective d'acteurs de l'école, que ce soit professionnels ou représentants de parents d'élèves ou associations, etc., de faire vivre son esprit et de le faire avancer. Voilà, je pense qu'on a souvent reproché à l'institution scolaire d'être toujours pyramidale descendante, mais se dire que chacun à notre place, on est aussi un acteur de l'institution et de son mouvement.
Bah, je pense que ton propos était clair et concret et donné à voir la position de l'institution et de ce bureau qui a conçu et organisé ce qui est l'éducation prioritaire. Peut-être que Michel aussi dire que ce qui se met en mouvement quand même autour des REP+, au niveau de la formation, les formats, il y a quand même tout.
J'ai dit rapidement, parce que moi j'étais pas là pour présenter la refondation de l'éducation prioritaire, mais c'est vrai que dans les REP+, je vous ai dit qu'on donnait du temps aux équipes, enfin aux enseignants pour travailler en équipe collectivement, mais on essaye aussi de développer la formation et l'accompagnement. Donc ça passe par un développement des plans de formation au niveau départementaux, académiques et même au niveau des réseaux. Ça passe aussi par la formation de formateurs, puisqu'on fait avec les ZEN, que certains d'entre vous connaissent, et avec l'IFE aussi, que certains d'entre vous connaissent aussi peut-être. On organise des formations de formateurs qui sont des enseignants seront aux côtés des équipes REP+ pour les accompagner, pour organiser et les accompagner dans un travail un petit peu au long cours et participer à des formations peut-être plus ponctuelles. Donc des formateurs, la formation de formateurs, on l'a mise en place en 2014. On l'a continué en 2015, on a formé une centaine de formateurs l'année dernière, on recommence avec une centaine cette année pour qu'ils soient au plus près des équipes. C'est vrai qu'on a à reconstituer des forces de formation, des forces de formateurs, et il y a un enjeu aussi dans les départements et dans les académies de fédérer toutes ces forces de formation qui peuvent être les formateurs que nous formons, qui peuvent être les conseillers pédagogiques, qui peuvent être aussi les coordonnateurs de réseaux, qui peuvent être les formateurs déjà en place, divers et variés, ça dépend des académies, de fédérer ces réseaux pour accompagner au plus près les équipes. Donc ça, c'est un plan c'est un pan très important de la refondation. On peut être soutenu aussi. Il y a des dispositifs. On en a parlé, on l'a évoqué, je crois, le plus de maîtres que de classes, qui sont aussi des dispositifs qui permettent de créer aussi des conditions de travailler, les conditions du travail ensemble, du réfléchir ensemble à ces pratiques, qui sont aussi des dispositifs intéressants. En fait, il y a une évolution vers le développement d'écoles ou de collèges ou de réseaux apprenants, qu'on appelle, hein, c'est-à-dire vraiment des équipes qui ensemble s'interrogent et travaillent à mieux comprendre les obstacles que rencontrent les élèves et à les travailler ensemble.
Oui, selon la formule qui est souvent utilisée par Patrick Picard et notre équipe, c'est les problèmes des élèves, ce sont des problèmes d'enseignants. Donc, il y a une relation duelle entre ce, quoi, c'est une évidence, mais se dire que c'est à partir du problème des élèves qu'un certain nombre de choses peuvent se passer et que, effectivement, le nombre de personnes, et on en parlait avec Patricia Simard là à table, le fait que d'être deux dans une classe, c'est pas seulement intervenir en co-animation, c'est aussi à certains moments, à un enseignant de pouvoir peut-être mettre un petit peu de distance, de regarder, d'analyser, d'observer, pour après pouvoir mieux travailler avec ses élèves. Hein. Donc on ne va pas enclencher sur ce sujet-là, ça fait l'objet de stages. Merci Michel pour cette intervention et puis cette reprise un peu de mise en perspective du référentiel par rapport à des choses qui ont été dites les deux derniers jours ou les deux jours où tu as été présente.